Today is a historic day. I have tremendous news. Today, we eradicated AIDS.
We're entering an era in which our enemies can make it look like anyone is saying anything at any point in time.
Il a la tête de Barack Obama. Il parle comme Barack Obama. Mais ce n'est pas tout à fait Barack Obama.
C'est en 2017 que le premier logiciel de deepfake est mis en ligne sur ce forum. Par qui ? Mystère.
Ici, vous voyez Anne Hathaway qui regarde à droite. Et là, ma femme qui regarde aussi à droite. C'est le même angle, la même expression. Sauf que cette image est fausse. Cette photo de ma femme n'a jamais été prise.
En gros, les deepfakes de il y a un an et les deepfakes d'aujourd'hui, il y a une grosse différence. Et ils se sont énormément améliorés. Et il se trouve qu'on a de plus en plus de mal à les détecter.
Il y a un dicton qui dit « je crois ce que je vois ». Et bien aujourd'hui, il ne faut plus croire ce que l'on voit.
Il n'y a pas que le coronavirus qui se propage comme une épidémie. Les fausses informations aussi se répandent sur le web à vitesse grand V et avec l'aide des réseaux de neurones artificiels, le niveau de manipulation monte encore d'un cran. Dernière en date, les deepfakes, ces vidéos truquées qui circulent sur les réseaux sociaux. On a appris cette semaine qu'après Facebook et YouTube, Twitter allait à son tour étiqueter ces images falsifiées. L'information n'a pas retenu l'attention de beaucoup, tout occupés que nous étions à autre chose, et pourtant, elle est digne d'intérêt. Deepfake, de quoi parle-t-on ? Sont-elles une nouvelle forme d'infox et un danger pour la démocratie ? Faut-il les interdire ? Voilà toutes sortes de questions que nous allons poser à nos deux invités ce matin. Julien Lebotte est en plateau avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue à vous. Vous êtes journaliste spécialiste de numérique. Vous êtes venu en octobre pour parler de Facebook et de Mark Zuckerberg, auquel vous avez consacré un ouvrage. Vous vous êtes même plongé dans la tête de Mark Zuckerberg. C'était le titre de ce livre paru chez Actes Sud. Et avec nous par téléphone, Arnaud Mercier. Bonjour.
Bonjour.
Professeur en sciences de l'information et de la communication à l'Institut français de presse, vous allez vous faire paraître un ouvrage en mai qui nous intéressera et qui nous intéresse déjà pour le sujet du jour. Il s'appelle Fake News, quel réel danger pour la démocratie, et il sortira aux éditions de la Maison des sciences de l'homme. Alors on va commencer par une explicitation des deepfakes, Julien Lebotte. C'est quoi clairement une deepfake par rapport justement aux fake news, ou qu'on dit en français qu'on appelle infox ? C'est de la vidéo truquée ou c'est un peu plus compliqué que ça ?
C'est de la vidéo truquée. Alors, le mot est assez hideux, on est au petit-déjeuner. Un deepfake, c'est un trucage hyper sophistiqué. Grosso modo, vous avez par exemple une personnalité publique. Dans l'espace public et sur Internet, on a beaucoup d'images d'elle. Il y a des bases données qui permettent d'avoir sous tous les angles et sous toutes les coutures des Donald Trump, des Barack Obama ou des Emmanuel Macron. Eh bien, c'est la capacité à produire une vidéo où un personnage dit quelque chose qu'il n'a jamais dit. C'est-à-dire que c'est la capacité pour le faussaire, pour quelqu'un qui souhaite détourner des vidéos, de leur faire dire quelque chose qui n'a jamais existé. Donc, grosso modo, c'est le Photoshop appliqué à l'heure de la vidéo.
Oui, mais ce qui est nouveau, peut-être aujourd'hui, c'est la qualité de ce fou. C'est un réalisme absolument confondant. C'est ça,
c'est très difficile, effectivement, d'identifier cette fausse vidéo. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, les logiciels sont capables vraiment, et d'ailleurs, dans leur mode de fonctionnement, c'est vraiment une capacité à identifier et à discriminer les images qui pourraient nous faire penser que c'est faux. Donc, en gros, même dans la fabrication de l'image, il y a un algorithme qui, à la fois, essaie de fabriquer le faux, et il y a un deuxième algorithme qui vient identifier ce qui pourrait nous laisser à penser que c'est faux pour être le plus près possible d'une forme de vraisemblable ou de véracité. Alors évidemment, ce n'est pas le cas. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'aujourd'hui, il y a une maturité des technologies pour nous permettre de fabriquer ce genre de faux parfait.
Vous savez, Arnaud Mercier, comment ça marche ? On a donné quelques exemples. Les exemples en particulier de Julien Lebotte sont politiques, mais pas seulement. C'est d'abord des personnalités publiques, parce qu'il faut une banque de données, effectivement, un certain nombre d'images de ces personnalités. On sait que des actrices célèbres, Scarlett Johansson ou Emma Watson se sont retrouvées par exemple en actrice de porno. Est-ce que vous savez comment ça marche, Arnaud Mercier ?
Oui, enfin je ne suis pas non plus informaticien, mais l'idée c'est que pourquoi ça s'appelle deepfake ? C'est parce que ça joue sur une technologie du deep learning, c'est-à-dire qu'en fait on permet à des machines d'apprendre en leur injectant plusieurs discours et plusieurs vidéos des personnalités que l'on vise, et la machine apprend à reconnaître et à reproduire de façon la plus fidèle possible les expressions du visage, notamment la manière de bouger les lèvres, et l'expression et le discours. Et à partir de cet apprentissage, jouant avec évidemment toutes les technologies de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, ces machines sont capables de ressortir, de fait, un discours discours vraisemblables, tant dans l'expression notamment de la bouche, qu'on remet dans un visage d'une autre vidéo, par exemple, et de reproduire à une grande fidélité les intonations de la voix, le son. Donc, du coup, c'est à s'y méprendre et on peut avoir réellement l'impression que c'est la personnalité qui parle vraiment, parce que on n'a pas les petits indices qu'on peut retrouver des fois assez facilement pour peu qu'on fasse un tout petit peu attention avec les photos retouchées, où on se dit « ah oui, mais là, tiens, c'est, ça, c'est pas très cohérent, ceci, cela ». Là, au contraire, l'enjeu, c'est le réalisme absolu, et le vrai danger qui arrive derrière, c'est de savoir si c'est une technologie qui reste aux mains de quelques petits génies de l'informatique, des geeks ou autres, un peu malveillants ou plaisantins et qui veulent faire ça, ou si la technologie se démocratise et qu'on est capable d'avoir des sites de fabrication automatisés et très démocratisés, c'est-à-dire on n'a aucune compétence informatique et on est capable de le faire. Vous voyez, c'est ça l'enjeu.
Le phénomène, de toute façon, est très récent. Hein. En France, on en parle depuis à peu près un an. Le phénomène lui-même a quoi, 3-5 ans, Julien Lebotte. Donc ça va très très vite. Effectivement, aujourd'hui, ce sont plutôt des spécialistes qui savent le faire, mais on sait qu'il y a des logiciels en accès libre, il suffit d'avoir...
Il y a des applications...
Tout le monde peut le faire. Quoi.
Oui, oui, il y a des applications aujourd'hui qui permettent de s'amuser.
Peut-être pas aussi bien, mais quand même.
Non, effectivement. Et d'ailleurs, c'est intéressant ce que disait Arnaud Mercier, c'est-à-dire que aujourd'hui encore, dans certains cas, quand on s'amuse à regarder sur Internet des exemples de deepfake, on voit qu'effectivement, c'est sur des petits détails qu'on peut à peu près identifier, sur un battement de cils, sur quelque chose autour de la bouche. Enfin, on voit qu'il y a encore des espèces d'apparences de choses un peu invraisemblables qui fait qu'on peut se dire, je suis pas tout à fait sûr, mais on sent qu'il y a une maturité des technologies qui font qu'on est très très près de la perfection du faux. C'est ça, encore une fois, qui est assez étrange.
Alors, on peut d'ailleurs poser la question d'un côté comme de l'autre. C'est-à-dire que jusqu'à présent, ça a touché des personnalités publiques. Même s'il faut un certain nombre d'images qui circulent, on sait bien que les images de chacun, de tous un chacun, avec les vacances, avec la famille, etc., se multiplient sur Internet. Ça veut aussi dire que ça peut toucher absolument tout le monde. C'est pas que les personnalités publiques, bientôt.
Oui, d'ailleurs, il faut nuancer un petit peu. C'est-à-dire que la plupart des victimes, et d'ailleurs, il y a des études là-dessus, montrent que les premières victimes, ce sont pas les hommes politiques ou la démocratie. C'est, je crois, c'est 96% des victimes de deepfake, en un certain sens, c'est-à-dire de fausses vidéos, eh bien, elles sont à caractère pornographique et c'est lié au revenge porn. C'est-à-dire que, évidemment, là, on se pose la question, dans la fabrique médiatique, on pose la question de l'espace public, du débat public, de la véracité des échanges, mais les premières victimes sont celles qui se voient, en fait, apparaître dans des vidéos auxquelles elles n'ont jamais participé. C'est-à-dire que non seulement il n'y a pas eu de consentement à la diffusion de l'intimité, mais en plus, la scène n'a même pas eu lieu. Le crime, entre guillemets, n'a pas eu lieu.
Je vais poser la question directement puisque vous parlez de danger, de véracité. Ce sont les deux mots qui sont les mots importants, me semble-t-il, pour cette question à Arnaud Mercier. En reprenant le titre de votre ouvrage à paraître, quel réel danger pour la démocratie quand on parle des deepfakes? Est-ce qu'il faut les craindre réellement, Arnaud Mercier?
Je pense qu'on ne peut pas ignorer effectivement les menaces que cela fait planer. Parce que, je dirais, il y en a à deux niveaux. Il y a, bien sûr, la capacité de nuisance que cela représente pour une personnalité publique, une personnalité politique, à faire circuler des déclarations qu'il aurait soi-disant prononcées, alors que, en fait, c'est totalement faux, et qui vise à le mettre dans l'embarras, à créer une confusion. On peut tout imaginer, quelqu'un qui fait dire au pape François que tout d'un coup il est pour le mariage des prêtres, et notamment le mariage gay des prêtres, ou pour la défense de la pédophilie, ou que sais-je encore, et donc obliger chacun à subir pour tout un tas de gens une espèce de choc, j'allais dire intellectuel, cognitif, voyez, et faire douter finalement de la parole du pape ou de n'importe qui d'autre. Enfin, vous voyez, avec des choses même un peu grossières, mais qui du coup feraient un peu trembler chacun en se disant mais c'est pas possible. Enfin, que faut-il en penser? Vous voyez, donc ça crée un trouble évidemment pour la communication d'une personnalité qui serait ainsi attaquée, où on lui fait dire le contraire de ce qu'il pense, ou même on lui fait dire, par exemple, des horreurs sur ses propres colistiers ou sur quelqu'un avec qui il veut faire une alliance, histoire de faire rompre l'alliance. Ah ouais, ce type-là, c'est vraiment un gros con, alors qu'il n'a jamais dit ça, et que du coup, ça crée un trouble chez les électeurs du futur allié. Enfin, vous voyez, il y a des tas de ressources possibles pour déstabiliser un adversaire. Et puis, d'autre part, il y a un niveau plus profond de crainte, c'est déjà le cas avec les fake news, c'est que ça introduit un tel niveau de confusion sur ce qui est vrai et pas vrai, sur ce qui est attestable et pas attestable, que cela crée une sorte d'univers de flou et d'incertitude qui fait que c'est nos socles de croyances qui sont en fait atteints à la racine, c'est-à-dire notamment le fameux, ça a été dit un petit peu dans un des extraits que vous avez mis dans le générique, sur on ne peut plus croire ce qu'on voit, parce que vous voyez, il y a quand même cette idée, bon bah là, oui, il y a l'attestation de la preuve par l'image, bon bah oui, si, il l'a dit, la preuve, voilà, on a l'image, et donc là, ça remet en cause un des fondements, un des piliers de notre système de croyance, puisque c'est la croyance par l'image qui, justement, devient affaiblie de ce point de vue. Donc, je pense qu'effectivement, il faut prendre ça très au sérieux.
Bon message, Julien Lebot. Juste sur le dernier point développé par Arnaud Mercier, on n'a pas attendu les deepfakes pour remettre en question notre système de croyance. On ne croit plus ce qu'on voit. Ça fait très, très longtemps qu'on a appris qu'il ne fallait plus nécessairement croire ce qu'on voyait, non ?
Non, c'est sûr qu'il y a évidemment une exigence de vigilance redoublée par rapport à l'ensemble des vidéos ou des contenus qui circulent dans l'espace public. Et ce qui est très compliqué, c'est qu'effectivement, on a l'impression que dans une économie de l'attention où tout va très vite, où on est bombardé de signaux contradictoires, il est très très difficile de faire la part des choses. Et en plus, vu que le débat public est aujourd'hui très majoritairement capté et digéré par des plateformes qui sont des accélérateurs de diffusion de contenus, disons viraux, c'est-à-dire qui font fortement réagir, si on fait dire n'importe quoi au pape ou à Donald Trump, qui nous d'ailleurs, Donald Trump n'a pas besoin de nous pour dire n'importe quoi, mais si on se rend compte que ces plateformes-là, aujourd'hui, elles ont une puissance de feu qui font que presque le deepfake est fait pour circuler à toute vitesse, ça complique drôlement la donne. Et d'ailleurs, ça perturbe d'autant plus le débat public que, en fait, ça nous empêche de penser aux problématiques de fond. Bref, une autre façon de prendre aussi le problème du deepfake, c'est d'essayer de penser un peu contre nous-mêmes et de regarder ce qui est fait partout dans le monde. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a quelques mois de cela, en Inde, le BJP, donc le Parti Nationaliste Hindou, a eu un candidat qui, pour essayer de toucher, dans le cadre d'une élection, un maximum d'audience, puisqu'on a affaire à un pays qui, par essence, est plurilingue, eh bien, ils ont produit une sorte de deepfake positif. Pourquoi ? C'est-à-dire que cet homme politique, qui parle a priori uniquement hindi, eh bien, les internautes ont pu voir circuler sur WhatsApp, donc une des suites logicielles de Facebook, trois vidéos de lui, dans trois langues différentes, où il tient dans une quarantaine de secondes des propos pour faire candidature. Eh bien, ce deepfake a été produit non pas par quelqu'un qui voulait trahir la pensée de cet homme politique, c'était plutôt une façon d'élargir l'audience de cet homme politique. Or, il se trouve que le parti politique qui est derrière ça, donc c'est le BJP qui est habitué au recours, entre guillemets, de trolls pour faire valoir son agenda politique, qui parfois recourt aussi au cyberharcèlement de journalistes. Et donc, on s'aperçoit que là, on approche d'espèces de zones grises où d'un côté, on se dit que le deepfake est utilisé pour élargir la circulation de signaux et d'informations, mais on voit bien que c'est fait par un parti dont les intentions sont évidemment pas du tout d'élargir la qualité du débat public, mais tout simplement d'attraper, de capter des électeurs. Voilà.
Oui, mais c'est peut-être d'ailleurs l'arbre qui cache la forêt, cet exemple que vous donnez de deepfake positif. Cela dit, c'est vrai que certains chercheurs disent bien que les deepfakes sont parfois faits, par exemple, pour améliorer les techniques de doublage au cinéma. Donc, on n'est pas toujours systématiquement, Arnaud Mercier, dans quelque chose de négatif. En même temps, est-ce que vous pensez que la décision de Twitter de étiqueter, voire de supprimer, donc, cette semaine, tous les deepfakes, c'est une bonne chose pour répondre, pour lutter à ce qui sème, selon vous, la confusion, Arnaud Mercier ?
C'est un vaste débat, parce qu'il y a plusieurs enjeux à travers votre question en réalité. Moi, je pense que d'une certaine façon, c'est une très bonne chose que les plateformes prennent des responsabilités éditoriales et ne se cachent pas derrière leurs petits doigts en essayant de nous faire croire, comme le font surtout notamment Facebook, qu'ils ne sont que là pour permettre aux gens de communiquer entre eux, que c'est pas un média, qu'ils ne sont pas utilisés comme un média et que donc ils n'auraient aucune responsabilité éditoriale sur ce qui circule et sur les effets que produisent des contenus mensongers et des contenus manipulateurs qui circulent sur leur plateforme. Donc, que les plateformes disent et prennent conscience du fait que les deepfakes peuvent être utilisés à des fins de manipulation grossière pour influencer le public, l'opinion publique, les électeurs avec des mensonges avérés, ça me paraît une très bonne chose. Qu'ensuite, ils inventent des systèmes qui vont de la labellisation à la suppression pure et simple pour certains faits qui sont particulièrement avérés, des manipulations qui sont évidentes et étiquetées comme telles, ça me paraîtrait une bonne chose. Maintenant, reste la question qui n'est quand même pas encore résolue, c'est comment le faire et comment éviter que ce pouvoir d'éliminer des choses ne corresponde pas à de mauvaises décisions qui perturbe du coup l'expression de la libre opinion sur Internet, parce que on aurait commis une erreur en identifiant comme une deepfake ce qui n'en est pas une. Donc il y a un vrai problème. Et de ce point de vue, je dis que c'était quelque chose dont il fallait évidemment se méfier, qu'il fallait prendre au sérieux. Et j'ai quand même aussi une part d'optimisme, indépendamment de l'usage positif qu'évoquait mon petit camarade, il y a quand même aussi l'idée que certains chercheurs, par exemple à Stanford ou MIT, affirment aujourd'hui que, prenant conscience des risques de dérive que font courir les usages des deepfakes, ils mettent en place des outils d'analyse des métadonnées de ces vidéos ainsi produites pour essayer d'avoir des indicateurs qui permettraient de détecter une deepfake. Non pas du point de vue de l'image et de son iconicité et de son contenu, mais du point de vue du codage informatique qui est derrière et qui permettrait de retrouver trace du fait qu'il y a eu une manipulation à l'intérieur de l'image. Donc, tout n'est pas à jeter, tout n'est pas à censurer non plus, mais une grande vigilance et du développement de production informatique et de connaissances informatiques pour donner aux plateformes le pouvoir d'agir en connaissance de cause, oui, ça me paraît une bonne chose.
Avec le risque, Julien Lebot, du jeu du chat et de la souris, c'est-à-dire que la recherche des uns nourrisse les dérives des autres, d'une certaine façon.
Oui, d'ailleurs, il est amusant de savoir que Facebook, pour essayer d'encourager ses algorithmes à détecter les deepfakes, a organisé une compétition où il encourageait les utilisateurs à produire des deepfakes pour entraîner ses algorithmes à identifier les deepfakes. Enfin voilà, on est dans un monde un peu surréaliste par moment et on est dans cette course un peu étrange.
Comment regardez-vous, vous, cette décision de Twitter, sachant qu'en plus, les plateformes, elles ont des politiques différentes, des moments différents. On peut ne pas comprendre pourquoi, là, tout d'un coup, Twitter se réveille. On sait bien que le Pentagone est inquiet des deepfakes à l'approche des élections américaines. Mais enfin, déjà, c'est pourquoi là, pourquoi cette décision maintenant?
Ce qui est certain, c'est que toutes les plateformes, grosso modo, il faut qu'elles se déterminent. En plus, il y a en ce moment le risque, entre guillemets, pour leurs affaires de régulation. Et on voit bien que sur les deepfakes, chacun est en train de dire oulala, je vais tempérer la circulation de ces vidéos, je vais faire ce qu'il faut pour... Voilà. Et dans le même temps, eh bien, tout ça reste toujours très très opaque et discutable parce que on a une grande opacité, et c'est ce que disait quelque part Arnaud Mercier, sur les choix qui peuvent être faits, avec toujours le risque de censure privée.
Donc... On n'est pas forcé d'avoir confiance dans ce qu'il faut en plus.
Je pense qu'il ne faut pas avoir confiance et qu'il faut continuer d'exiger une forme de transparence. Il faut qu'on ait plus d'accès sur la façon dont la régulation des discours qui circulent dans l'espace public, elle est exercée par ces plateformes. Et aujourd'hui, on y est toujours pas. Et puis d'autre part, il y a quand même, et c'est là où il faut continuer de nuancer, de la même manière que Photoshop n'a pas mis fin au photojournalisme, les deepfakes ne vont pas mettre fin à la vidéo, au documentaire, etc. Mais ce qu'il nous faut à présent bien mesurer, c'est qu'il faut impérativement que le public soit armé par rapport à tout ça. Donc ça passe par des enjeux, et c'est pas très sexy de le dire, d'éducation aux médias, ça passe par une hypervigilance de la part des régulateurs, ça passe par tous ces éléments-là, et puis effectivement par une prise de responsabilité des plateformes. Et on voit bien que à chaque fois, et c'est comme ça que ça se passe avec Facebook, j'en ai parlé beaucoup dans mon livre et ça continue de se passer, c'est-à-dire que généralement Facebook laisse faire et puis au bout d'un moment rétropédale en disant bah oui, effectivement, on n'aurait pas dû faire ci ou ça. Mais le dommage, il est là. Donc en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il ne faut pas d'une part penser que le public est strictement désarmé face à ça. Non. Et d'ailleurs, le Media Lab de Sciences Po le documente très très bien, c'est-à-dire que c'est pas parce que vous avez des fake news dans l'espace public que les gens font n'importe quoi. En revanche, tout ça fabrique de la stupeur, de la confusion, et c'est pas sain. Et ce qui est assez paradoxal, c'est que les deepfakes sont parfois utilisés par des agents qui sont bien intentionnés, mais qui contribuent à cette confusion. Et on a vu ça avec Solidarité Sida. On l'a entendu au début de l'émission où on voyait Donald Trump dire qu'ils avaient réussi à éradiquer le sida, ce qui est évidemment faux. Donc, tout est souvent affaire aussi de contexte d'émission de ces vidéos-là pour comprendre ce qui est en train de se jouer.
Et puis, savoir que les deepfakes, en tous les cas, selon Twitter, seront interdits à condition qu'on sache qu'elles sont partagées avec l'intention de faire croire qu'elles sont authentiques ou qu'elles menacent la sécurité publique. Donc, garder la vigilance, l'esprit critique, éduquer plutôt qu'interdire, ou peut-être parfois les deux à la fois. Merci beaucoup à vous, Julien Lebot, et merci beaucoup Arnaud Mercier. On peut poursuivre cette discussion en lisant un article extrêmement intéressant sur le site AOC, signé du philosophe Mathias Girel, sur Infox et confusion, puisque le terme de confusion, vous l'avez tous les deux utilisé au cours de cette conversation. Merci beaucoup à tous les deux.
Merci.
Merci.